Bah déjà, bonsoir à merci d'être venu. Bonsoir à toutes et à tous, en tout cas ceux que je n'ai pas vus. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit peu, je vais dire quelques mots en introduction sur la situation sociale du monde du travail, sur la situation dans laquelle on vit. Et puis après, on passe au débat. Alors, le débat, on aura l'occasion d'y revenir, c'est, on se dit tout. Voilà, tous les sujets. Il n'y a aucun sujet tabou.
Elle n'est pas sortir.
Moi j'ai tout mon temps.
Pour une fois.
Non mais dans la vie, voilà. Donc il faut. Moi, je vais commencer évidemment par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier à Paris, par rapport à la mobilisation, à la manifestation des Gilets jaunes, et puis de évidemment la casse qu'il y a eu, les violences, etc. Je tiens quand même à dire que les méthodes des Black Blocs, vous savez, c'est les jeunes qui sont habillés tout en noir et qui participent à certaines manifestations et qui ont pour objectif de faire passer des images à la télé, de se montrer à la télé, voilà. C'est pas ça la politique des travailleurs. C'est pas comme ça qu'on pourra faire reculer nos patrons. C'est pas comme ça qu'on pourra faire reculer Macron et puis le gouvernement. Ça fait sans doute beaucoup d'images, mais en tout cas, on pense que ça dessert le mouvement, que ça l'affaiblit même d'une certaine manière, parce que c'est des actions qui sont stériles pour le mouvement. Et moi, la chose qui me choque à chaque fois le plus, parce qu'on l'a vécu aussi dans les manifestations syndicales, les manifestations de travailleurs, c'est que c'est décidé par personne. C'est décidé juste par un petit groupe, voilà, de Black Bloc, qui ont décidé que cette fois-ci, ils casseraient telle ou telle chose, et ils mettent toute la manifestation, tous les participants de la manifestation devant le fait accompli. Bon, moi, on trouve que, enfin, en tout cas, c'est pas ça la démocratie. C'est pas qu'on est non-violent ou que on veut absolument pas, voilà, que voir le Fouquet se brûler, bon bah, je sais pas comment vous dire, on va pas pleurer quoi, non plus l'un, bon on est d'accord. On n'avait pas l'intention de faire le brunch du dimanche matin à 600 euros là-bas, ça c'est clair, c'est un symbole des riches. Et c'est pas en brûlant le Fouquet qu'on va faire peur à Macron, c'est pas comme ça, et surtout qu'on va faire peur à nos patrons. Par contre, que le gouvernement. Ce que le gouvernement utilise, c'est toutes ces images. Alors là, ça fait une semaine, on a tartine sur tartine dans les médias sur la République est attaquée, tout le monde est outré, c'est pas possible, c'est un vrai scandale, on peut plus continuer comme ça. Bon, il faut quand même qu'on souligne que tous ceux qui sont aujourd'hui scandalisés parce qu'il y a le store du Fouquet's qui a été brûlé, ils ne sont pas scandalisés quand il y a des fermetures d'usines, ils ne sont pas scandalisés quand il y a des licenciements secs, ils ne sont pas scandalisés quand il y a des retraités qui ont une pension de misère pour vivre parce que pendant toute leur vie, ils ont eu un salaire qui a été bloqué pendant des années et qui se retrouvent à la retraite avec pratiquement rien du tout. Ils ne sont pas choqués de voir les jeunes qui sont au chômage, ils ne sont pas choqués. Voilà. Donc il y a quand même deux poids, deux mesures là-dedans, et le gouvernement est en train de, d'une manière très très provocatrice, de mettre de l'huile sur le feu, parce qu'il a un problème sur les bras, c'est que la contestation des Gilets jaunes, elle n'est pas finie. Que malgré tout ce qu'on vit dans les médias, tout ce qu'il y a eu contre le mouvement de dit, contre le mouvement des Gilets jaunes, ça continue. Ça continue de semaine en semaine, parce que de toute façon, on sait que dans ce pays, la colère, elle va pas s'arrêter avec le débat national, le grand débat de Macron. Ce qui va sortir du grand débat de Macron, c'est zéro. C'est bidon, c'est une grosse mascarade. On l'a dit depuis le début, tout simplement parce que Macron, avant même qu'il démarre son grand débat, il a dit, de toute façon, la feuille de route, elle changera pas. L'ISF, je le mettrai pas, je vais pas le rétablir. Et puis, vous avez sans doute entendu, là, c'est en train de, il y a une petite musique qui commence à arriver dans les médias sur la retraite. Ils sont en train de discuter, de repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer un cocktail Molotov qu'ils sont en train de nous jeter à la figure. Ils vont nous le jeter à la figure, ce truc-là. Parce que repousser l'âge de la retraite, c'est pas une solution. C'est pas une solution pour déjà les anciens, qui, même sans arriver à 60 ans, mais quand on a 50, 55 ans et qu'on travaille dans des boulots pénibles, durs, à l'usine et compagnie, c'est à cet âge-là qu'il faudrait partir pour pouvoir bénéficier de la vie. Voilà, bénéficier du reste de la vie. Et puis si les anciens restent au boulot le plus longtemps possible, les jeunes, où est-ce qu'ils vont trouver du boulot? Nulle part. Bon, alors c'est pas une solution, parce que par contre, ça, c'est une solution pour les patrons. Ça défend leurs intérêts, et c'est pour ça que Macron, lui, il veut mettre ça sur la table. Alors, le mouvement des, la mobilisation des gilets jaunes, à l'autre sens, elle a réussi à poser la question essentielle du pouvoir d'achat. Un des points positifs de ce mouvement-là, voilà, d'où on le dit, la question du pouvoir d'achat, c'est quoi? D'une manière générale, c'est de vivre dignement. C'est de pouvoir vivre dignement de son salaire, de pouvoir vivre dignement de sa pension de retraite. Et ça, aujourd'hui, en France, on ne peut plus le faire. De plus en plus de travailleurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts, malgré qu'ils travaillent, malgré qu'ils ont un salaire, malgré même qu'ils fassent des heures supplémentaires. Et ça, c'est pas normal. Et quand on voit même au niveau du vivre dignement, c'est pas simplement que le pouvoir d'achat, c'est aussi avoir accès à un logement décent. Vous vous souvenez sans doute de ces immeubles qui sont écroulés à Marseille, dans un quartier populaire, ça fait 8 morts. C'est pas 8 milliardaires qui sont morts. C'est 8 gens comme nous, des femmes et des hommes comme nous, qui habitaient ce qu'ils pouvaient habiter, ce qu'ils pouvaient se payer comme logement, c'est-à-dire un immeuble qui était complètement délabré parce que c'est tenu par des marchands de sommeil qui n'ont aucune retenue et qui n'ont aucun remords de faire payer des loyers exorbitants pour vivre dans des appartements qui sont invivables. Voilà. Et donc ça, même ça, la société, elle n'est pas capable de l'offrir. Alors, sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas 36 solutions. Pour qu'on ait un vrai pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions de retraite. Ça, c'est des revendications qui sont essentielles. Et pour ça, il faut taper dans le profit des grandes entreprises. Dans les dizaines de milliards qui sont produits chaque année, là, en 2018, ça vient de sortir, simplement les 40 plus grandes entreprises en France ont déclaré 88 milliards de profits. Bon, c'est énorme, énorme. Et ça, c'est nous qui l'avons, c'est nous les travailleurs qui l'avons fabriqué, qui l'avons produit. Alors même si Macron, de toute façon, il voulait s'attaquer au profit des grandes entreprises, je vous rassure, c'est pas du tout son objectif, mais qu'il le pourrait même pas, parce que ça dépend pas de lui tout ça, parce qu'il aurait en face de lui une bourgeoisie, des milliardaires qui de toute façon ne veulent strictement rien céder, au contraire. Et on est dans un pays, la France, c'est pas un pays pauvre, hein, c'est une des principales puissances économiques dans le monde. Toutes les richesses qui sont produites dans la société sont accaparées par cette bourgeoisie, sont accaparées par les capitalistes. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a des chiffres qui donnent le tournis, mais qui donnent la rage aussi, parce que il est là le problème. Et le problème, c'est que ces bourgeois, ils veulent rien partager. Ils veulent rien céder. Parce qu'il y a la crise économique. Parce que de toute façon, d'une manière générale, un grand patron, il veut rien céder. Il veut rien donner de lui-même. Il faut toujours une lutte, il faut toujours une grève, il faut toujours un rapport de force pour pouvoir lui imposer quelque chose. Mais là, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise économique où la société s'enfonce et où même ces capitalistes, pour protéger leurs profits, pour protéger leurs bénéfices, ils n'ont pas 36 solutions. Ils ont deux leviers, deux moyens pour continuer à s'enrichir. Le premier moyen, c'est de se faire la guerre entre eux. C'est ce qu'on appelle la guerre commerciale. Alors c'est la guerre commerciale en France entre les patrons français, les grands patrons français. C'est, moi je suis de l'automobile, donc je vais vous prendre cet exemple, c'est le groupe BSA face au groupe Renault, Nissan, voilà, ou face aux autres constructeurs. Et c'est aussi une guerre commerciale à l'échelle mondiale. C'est les États-Unis qui ont déclaré la guerre commerciale à la Chine, c'est les États-Unis qui ont déclaré la guerre commerciale à l'Europe, parce que les capitalistes américains, les grands patrons américains, ils ont besoin que l'État américain, que Trump, mettre des taxes douanières, etc., et fasse la guerre aux autres pays pour que les capitalistes américains gagnent des parts de marché. Alors, au nom de cette, de cette guerre commerciale, elle se fait au nom de la compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut être rentable. C'est-à-dire, et ça se fait avec notre peau et sur notre dos. Parce que pour être rentable, pour un patron, ça veut dire qu'il faut que les salaires soient bloqués, voire qu'ils diminuent, qu'ils nous fassent sauter des prix. Ou alors, il faut être moins nombreux à travailler, pour travailler plus longtemps. Voilà. C'est pour ça que certaines entreprises, entre autres, sont en train de casser les 35 heures, et puis suppriment des emplois, licencient, et au lieu d'avoir des CDI, bah, on a des contrats précaires, de l'intérim, du CDD, enfin voilà, des choses qui sont scandaleuses. Et ça, c'est une des raisons. Après, le deuxième levier, bah, c'est la finance. C'est la finance, c'est ces grands financiers, ces grands patrons qui plutôt que d'investir dans la production et créer de l'emploi, ils ont compris, parce que l'organisation économique de la société fonctionne de cette manière-là, que pour faire de l'argent rapidement, avoir du cash rapidement, il faut faire de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut spéculer en bourse. Il faut spéculer dans le grand casino mondial, c'est-à-dire se vendre, se racheter des parts d'entreprise. Ça ne crée pas de l'emploi. Mais ils spéculent là-dessus. Alors ils spéculent sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est aussi une manière qu'ils ont de s'enrichir et de faire monter leur fortune personnelle. Mais c'est au détriment de l'ensemble de la société. Il est là le problème. C'est qu'on est toujours sous la menace, et ce n'est pas nous qui le disons, ça c'est les journaux économiques patronaux, on est sous la menace constante d'un krach boursier. Et ça, c'est un problème. Un krach boursier, ça veut dire que c'est des entreprises qui ferment, qui licencient, et c'est nous, les travailleurs, qui, à chaque fois, payons la note. Et c'est une société qui s'enfonce réellement dans la crise. Donc, de toute façon, on est dans une situation où la société, elle est sous la menace d'une crise boursière, on est dans une crise économique, et je ne parle même pas d'une crise sociale, parce que nous, on n'arrive pas à s'en sortir, et je ne parle même pas de la crise écologique. Il y a quelque temps, les jeunes, ils ont manifesté pour la planète, mais ils ont mille fois raison. Mille fois raison. Quand on écoute les scientifiques, les experts, les chercheurs, ils nous disent que si on ne change pas notre manière de produire, on envoie la planète dans le décor, on envoie la planète dans le mur. Alors, nous, on ne le verra peut-être pas, parce que c'est peut-être à l'échelle de plusieurs dizaines, enfin, moi, parce que j'ai un peu les cheveux gris, c'est pour ça que je dis ça, mais parce que je vois des jeunes là, donc je me dis non, tout le monde n'est pas comme moi, mais c'est un vrai problème. Et le gros problème qu'on a, enfin, le problème fondamental qu'on a, c'est que la société, elle est dirigée par des capitalistes, elle est dirigée par des milliardaires, par la bourgeoisie, qui de toute façon ne voit pas plus loin que le bout de son nez, de son intérêt privé, son intérêt à elle. Les milliardaires, ils ne raisonnent pas au niveau de la société, au niveau du bien de la société, au niveau de la collectivité. Ils raisonnent au niveau individuel. Alors, on pourrait penser que c'est un tableau noir. Ce n'est pas forcément un tableau noir, parce que nous, on est convaincus et on mise sur les révoltes de la classe ouvrière, sur les révoltes des travailleurs, sur les révoltes des... Quand je dis travailleurs, derrière le mot travailleur, moi je mets tout. Je mets tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, que leur allocation ou que leur pension de retraite pour vivre. Voilà, ça fait du monde. Dans la société, quand vous additionnez, ça fait on est les plus nombreux. Parce que c'est nous qui faisons tout fonctionner. Et pourquoi on mise sur la classe ouvrière? Justement parce qu'ils sont au cœur du système. C'est nous qui fabriquons toutes les richesses de ce pays. C'est nous qui faisons tourner toutes les entreprises, les services publics, les hôpitaux, les écoles, les entreprises, les usines, les banques, tout, tout, tout. Les capitalistes, ils ne pourraient pas vivre sans nous. Et c'est nous qui faisons, qui fabriquons toutes les richesses. Alors, on est convaincu que des révoltes, de la contestation, de la mobilisation, il va y en avoir. Il va y en avoir bien d'autres. Parce que la société, une société qui est fondée sur l'exploitation et sur l'injustice, de toute façon, ça ne peut pas continuer éternellement. Il y a un moment donné ou un autre, ça craque. Et on le voit, nous, pour nous, le changement, il ne peut venir que par le bas. Il ne peut pas venir par le haut. Il ne peut pas venir d'un député ou d'un président de la République. Ça ne vient jamais par le haut. Et on a l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, où à plusieurs dizaines de milliers, il y a eu des choses qui ont bougé. Il y a eu des choses qui ont un tout petit peu changé. Alors, insuffisamment à notre goût, on est tous d'accord, il faudrait que ça aille plus loin, il faudrait que ça bouge plus loin, il faudrait que ça recule plus loin, mais en tout cas, c'est par l'action de dizaines de milliers de personnes, de manifestations, où ça a fait bouger, là-haut, ça a fait bouger un peu le pouvoir. Et puis, il y a ce qui se passe en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, c'est un exemple ce que peut faire le peuple quand il se mobilise, quand il relève la tête et quand il dit maintenant c'est fini. On arrête de nous prendre pour des imbéciles. Le Bouteflika, là, il n'arrive même pas à prononcer deux mots, et il nous, la clique au pouvoir, il nous le présente pour un cinquième mandat. Pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des imbéciles. Donc là, il y a, à cause de ça, il y a en ce moment des manifestations qui sont énormes, et ça démarre sur le cinquième mandat, le futur cinquième mandat peut-être de Bouteflika, mais ça va s'étendre sur bien d'autres revendications. Ça va s'étendre aussi, parce que sur le pouvoir d'achat, les Algériens, ils appellent ça la mal-vie. La mal-vie, parce qu'ils vivent mal là-bas. Comme nous, ici, on vit mal en France. Voilà. Alors, c'est des échelles qui sont différentes, mais il y a du chômage, il y a les salaires qui sont misérables, il n'y a aucun service public. Voilà, pourtant, l'Algérie est un pays riche, extrêmement riche. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du minerai. Cette richesse, elle est accaparée, une partie par les riches en Algérie, les bourgeois en Algérie, mais aussi elle est accaparée par les entreprises françaises, parce qu'il y en a un paquet là-bas, qui se font leur beurre aussi sur le dos de la population algérienne. Alors, tout comme les gilets jaunes, ça a démarré sur l'augmentation de la taxe sur les carburants, puis après ça s'est étendu sur un certain nombre d'autres revendications. Ça a été beaucoup plus loin. Parce que c'est ça, le mouvement social. Un mouvement social, on sait toujours quand ça démarre, sur quoi ça démarre, mais on ne sait jamais comment ça va se développer. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Bah nous, on est pour que ça aille le plus loin possible. On est pour que la conscience, elle grandisse le plus loin possible. Alors pour ça, il faut avoir conscience de ses intérêts. Et nous, ce qu'on affirme, et ce qu'on va défendre dans la campagne électorale, c'est que les travailleurs, ils ont des intérêts spécifiques à défendre dans la société, face au patron, face au grand capital, face à tous ces milliardaires. Ils ont des intérêts spécifiques. Alors, il y a d'abord ça, c'est des intérêts spécifiques à défendre. Et puis, ce qu'on veut affirmer aussi, c'est qu'il faut savoir contre qui on doit se battre. Parce qu'on entend beaucoup Macron démission, ou c'est le macronisme qui pollue la société, qui nous empêche de vivre, etc. Et on entend souvent Macron, c'est le président des riches. Quand on dit ça, on veut dire que Macron, il est du côté des riches. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas tout à fait vrai, en fait, dans la formule. Les riches, ils n'ont pas besoin de président. Les riches, ils se président eux-mêmes. Ils se gèrent eux-mêmes. Quand, je prends l'exemple de PSA, PSA en 2018, 3,3 milliards de bénéfices. Les 3,3 milliards, il n'y a que les actionnaires de Peugeot qui vont décider de l'utilisation de ces 3,3 milliards. Parce que c'est une propriété privée, ces milliards de bénéfices. Voilà, il y a 780 millions qui vont atterrir dans les poches directes des actionnaires. Ils vont jouer en bourse avec ça, tranquille. Et puis le reste, ils vont décider eux-mêmes de ce qu'ils vont en faire. Pourtant, ça a été le produit du travail de tous les salariés de PSA, mais bien plus large, des services publics qui ont amené les salariés dans l'entreprise, etc. Mais on n'a aucun contrôle sur ces milliards. Et autant les riches, ils n'ont pas besoin de président, autant ils ont besoin d'un serviteur. Et là, ils ont besoin de quelqu'un à la tête de l'État qui serve leurs intérêts. Parce que eux, ils sont minoritaires dans la société. Donc ils ont besoin que l'État fasse des lois, défende attaque la population sous différentes formes, sur la fiscalité, sur le droit du travail, sur tout un tas de secteurs, tout un tas de mesures, tout un tas de plans, mais pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs profits, pour défendre leur monopole sur la société, pour défendre leurs privilèges. Et Macron, bon, il est peut-être bien payé, il est président de la République, il est bien payé, il a une toute petite fortune, je ne sais pas combien il est, de combien il est riche, mais c'est rien du tout par rapport aux vrais riches qu'il y a dans ce pays. Par rapport aux vrais riches qu'il y a. Je vais vous donner un exemple, c'est Bernard Arnault. Il y a un magazine américain qui s'appelle Ford qui fait chaque année le classement des plus riches de ce monde. Bon, cocorico, le quatrième plus riche, l'homme le plus riche du monde, c'est un Français, il s'appelle Bernard Arnault. Il est riche à peu près, parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer, on n'est pas à quelques millions près, hein, 67 milliards, c'est sa fortune personnelle, 67 milliards. Bon, il a gagné, moi je dis que c'est un smicard, Bernard Arnault, il a gagné en 2018 l'équivalent d'un smic. D'un SMIC toutes les 20 secondes. Là, ça fait déjà un petit moment qu'on cause. Le gars, il est riche déjà. il est riche. Moi, j'aurais arrêté au bout d'une demi-heure, ça me suffisait. Mais bon. Il gagne un SMIC. En 2018, il a gagné un SMIC toutes les 20 secondes. 3 SMIC à la minute. Quand on parle de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Peugeot, de Renault-Nissan, il tournait à 45 000 euros par jour. Déjà, l'échelle, elle est pas la même. Bernard Arnault, et ce qu'il faut voir, c'est que Bernard Arnault, c'est lui qui décide. Enfin, c'est les Bernard Arnault qui décident en France. C'est pas Macron. Macron décide rien du tout. Macron, il applique. C'est un serviteur. J'ai l'habitude de dire que Macron, c'est le Benalla de Bernard Arnault. C'est exactement ça. C'est un exécutant. C'est juste un exécutant. Alors, son job, il faut qu'il le fasse bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse passer des mesures qui défendent les bourgeois, mais en faisant en sorte que nous, on les accepte. Bon, et des fois, il tombe sur un os. Des fois, ça passe pas. Ça passe plus. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, ces intérêts qu'on doit défendre en tant que travailleur sur le pouvoir d'achat, bah, c'est l'augmentation des salaires, mais c'est pas que ça. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Il ne faut pas simplement revendiquer l'augmentation des salaires. Il faut aussi revendiquer que les salaires augmentent et les pensions de retraite augmentent en même temps que les prix. Parce que si on prend simplement l'exemple de la taxe sur les carburants, le mouvement des Gilets jaunes a gelé pour un an l'augmentation de cette taxe. Très bien. Mais le prix du gasoil, il n'a pas été bloqué, il n'a pas été gelé. Et même après une courte baisse, il est reparti à la hausse. Ouais, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous faites le plein, il est au même niveau que le 17 novembre. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de remplir évidemment une partie des caisses de l'État, ça c'est sûr, mais on est en train de remplir les caisses de Total. Quand je dis Total, c'est on est en train de remplir les poches des actionnaires de Total. Voilà. Et ça, c'est nous qui le payons net sur la facture. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut que nos salaires, il faudra qu'on impose à nos patrons que nos salaires augmentent en même temps que les prix augmentent. Sinon, on est les dindons de la farce à chaque fois. Et ça, il n'est plus question qu'on soit les dindons de la farce. Par rapport au chômage, par rapport à l'emploi, on est en train d'en crever en France du chômage et de l'emploi, parce que les entreprises n'arrêtent pas de licencier. Je donne encore l'exemple, toujours le même, hein, mais je le connais bien. PSA qui fait 3 milliards de bénéfices et qui va supprimer 1900 emplois, près de 2000 emplois. Parce qu'il faut à chaque fois être moins nombreux pour sortir plus de production, pour que là-haut, il se gave. Il est extrêmement simple. Donc ça, nous, ce qu'on met en avant, ce qu'on défend comme revendication, c'est qu'il faut interdire les licenciements. Il faut interdire les fermetures d'usines. Parce que ça, c'est pas possible qu'on continue comme ça. Et qu'il faut se répartir le travail entre tous. C'est-à-dire, au lieu d'être une centaine à travailler, eh ben, il faudrait qu'on soit 200 à travailler. On aurait un salaire chacun, et puis on travaillerait moins dur. Et on pourrait moins s'esquinter la santé et espérer arriver à la retraite moins esquinté. Mais ça, c'est des intérêts qui sont immédiats, des revendications immédiates pour que notre vie, nos conditions de vie soient protégées. Parce que nos conditions de vie, depuis des années, elles sont attaquées et attaquées de plus en plus brutalement. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce n'est pas parce que la France est un pays riche que les attaques vont s'arrêter. Au contraire, les riches, les milliardaires, les bourgeois, ils veulent encore plus parce que c'est une question de survie pour eux. Parce qu'à partir du moment où ils reculent, bah, ils peuvent y passer. Parce que c'est la guerre entre eux. Et donc il faut absolument qu'ils continuent à se comporter comme un rouleau compresseur dans la société et à s'accaparer l'ensemble des richesses. C'est ça qu'il faut contester. C'est ce pouvoir-là que les travailleurs doivent contester aux bourgeois. Il y en a marre, vous représentez une minorité, vous êtes des parasites. Vous engraissez sur notre dos pour quel résultat? On vit de plus en plus mal. On vit de plus en plus mal. Et donc ça, il faudra que par des mobilisations massives, il faudra que les travailleurs ils défendent ces revendications, il faut qu'ils défendent ces objectifs de lutte. Alors, on fait le constat que la combativité, que la conscience de ces intérêts à défendre, ils ne sont pas encore au niveau. On le fait tous le constat. Qu'il y aurait des grèves dans les entreprises, ça serait... ça renforcerait tout le monde. En tout cas, ça renforcerait le camp des travailleurs. Bon. Il n'empêche que nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, c'est pas... Il y a des choses qui dépendent de nous, et puis il y a des choses qui dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent pas de nous, bah, c'est de faire démarrer des grèves, c'est de faire démarrer des mouvements. Bon. Quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a aucun parti politique, aucun syndicat, aucune association qui a démarré ce truc-là. Ça s'est agrégé, ça s'est contesté, il y a eu de la colère et qui s'est exprimée sur cette mesure de Macron d'augmenter la taxe sur les carburants. En fait, le responsable, c'est Macron. C'est Macron qui a fait démarrer le mouvement des Gilets jaunes. Tout comme en Algérie, c'est la clique au pouvoir qui a fait démarrer les manifestations de millions de personnes. Parce qu'ils ont dit, c'est Bouteflika qui remplit pour un cinquième mandat. Vous n'avez pas de choix. Ok, il ne parle pas, il ne pense plus, il est en Suisse sous perfusion, mais ça sera votre président. Voilà. Et puis, taisez-vous et continuez à bosser. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Ils sont tombés sur un os, là. Ils ont un os qui est quand même assez énorme, maintenant, du coup. Bon, tant mieux. Ça nous conforte dans notre conviction principale que c'est par le bas que ça doit changer. C'est comme ça qu'on peut faire changer les choses, qu'on peut faire changer la vie des travailleurs. C'est pas par les élections. C'est pas en mettant un bulletin de vote qu'on peut faire changer la vie. Alors, toutes ces idées, on les défend tous les jours, à Lutte ouvrière, dans les usines, dans les entreprises dans lesquelles on travaille, dans les quartiers, auprès de nos voisins, auprès de nos amis, on les défend tous les jours. On va les défendre dans la campagne électorale des Européennes. Parce qu'on veut surtout pas, nous, ce qu'on veut, c'est que les travailleurs, ils utilisent cette campagne électorale pour mettre en avant leurs intérêts. Que le camp des travailleurs puisse s'exprimer face au grand capital, face aux intérêts des Bernard Arnault et compagnie. Voilà. On a des intérêts qui sont fondamentalement opposés. Et ça, il faut que les travailleurs se saisissent de ces élections pour exprimer cette idée-là, exprimer cette conscience qu'ils appartiennent à un camp, qu'ils appartiennent à une classe sociale. On ne veut surtout pas tomber dans le piège que les politiciens voudraient nous tendre, sont en train de nous tendre, c'est de dire il y a ceux qui sont pro-Europe et ceux qui sont anti-Europe. Je vous dis clairement, l'Europe est une machine de guerre contre les travailleurs. On est d'accord. Tout comme l'État français, tout comme Macron, c'est une machine de guerre contre les travailleurs. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Mais que les travailleurs restent qu'on reste en Europe, c'est les travailleurs qui payent. Qu'on sorte de l'Europe, c'est les travailleurs qui payent. Dans ce dilemme, dans ce débat qu'ils veulent nous mettre, de toute façon, nous, travailleurs, on est perdants. On est perdants si on ne défend pas nos intérêts, si on ne défend pas notre peau. Dans cette affaire-là. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière dans ces élections municipales, donc municipales, n'importe quoi. Dans ces élections, pardon. C'est ça qu'on veut mettre en avant, faire passer cette idée, cette conscience de classe que nous, en tant qu'on soit travailleurs, chômeurs ou actifs, CDD ou précaires, qu'on soit pensionné, enfin qu'on soit retraité, on a des intérêts à défendre. Si on ne les défend pas, on va se faire avoir, on va se faire bouffer. Et que notre vie là-dedans, elle ne vaut pas cher face aux appétits des milliardaires. Et que tant que les bourgeois dirigeront la société, on n'aura de cesse que de lutter. La seule manière, la seule solution pour nous, en tant que travailleurs, ça sera que les travailleurs prennent les commandes des entreprises. Nous, ce qu'on défend comme idée, c'est qu'il faut que ce soit les travailleurs qui fassent la loi dans les entreprises. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra réorganiser la société, qu'on pourra s'en sortir. Voilà. C'était les quelques mots que je voulais dire. C'était un peu pour planter le décor. Si vous voulez, maintenant, on peut passer au débat, et puis dire, y compris nos désaccords, les choses sur lesquelles on veut discuter, n'hésitez pas. À vous la parole.